en colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne durant la case.
Le vendredi 21 septembre 2007, s'est tenu à l'Institut de France un colloque de l'Académie des sciences morales et politiques sur l'évolution créatrice de Henri Bergson, œuvre dont on fête en 2007 le centenaire de la parution. Le célèbre philosophe, professeur au Collège de France, qui reçut le prix Nobel de littérature en 1927, fut membre de l'Académie française à partir de 1914 et membre de l'Académie des sciences morales et politiques dans la section philosophie. Bertrand Saint-Sernin, membre de l'Institut qui appartient lui aussi à l'Académie des sciences morales et politiques depuis 2002, dresse ce jour-là le portrait de Bergson en 1907. Retrouvons Bertrand Saint-Sernin, professeur émérite de la Sorbonne, en grande salle des séances.
Proclus, qui dirigea pendant 40 ans l'école de Platon au 5e siècle, note « Le démon de Socrate n'est pas l'âme de Socrate ». Et une remarque de Bergson lui fait écho. « La vie d'un philosophe, dit-il, ne jette aucune lumière sur sa doctrine ». Et pourtant, un des philosophes qui a été le plus proche de Bergson, Jean Guiton, dans l'avant-propos de son livre « La vocation de Bergson » dit ceci « Il n'ignorait pas que la pensée tient à l'âme, que l'histoire de la pensée chez le penseur transpose mystérieusement l'histoire intime de sa vie. » Mais si l'accès au génie de Bergson est ouvert, il faut lire ses œuvres, même si on risque de ne pas toujours les comprendre. En revanche, il a interdit qu'on fasse de lui un portrait psychologique. Ayant à prononcer l'éloge du philosophe à qui il succédait à l'Académie française, Édouard Leroy expose en ces termes la difficulté à laquelle il se trouva confronté. Je le cite, « Il a laissé des instructions catégoriques pour défendre qu'on mêlât rien de sa personne privée à l'examen de ses travaux. Respectueux de sa volonté, je ne puis donc m'arrêter que fort peu sur sa biographie, une liste de dates, voilà ou presque la limite que je dois veiller à ne pas franchir. » Autrement dit, ce qu'on m'a demandé de faire aujourd'hui apparaît comme une sorte de transgression des volontés de Bergson. Est-ce que le jour où nous célébrons le centenaire de l'évolution créatrice, son œuvre la plus connue, est-ce que nous pouvons transgresser cet interdit ou pouvons-nous nous y plier? Alors, je crois qu'il faut d'abord comprendre les raisons que donne Bergson. Il avait une conscience aiguë de la différence entre le moi social et le moi profond. Et c'est la raison pour laquelle, dans son testament de 1937, il dit qu'il interdit la publication de tout manuscrit ou de toute portion de manuscrit qu'on pourrait trouver dans ses papiers ou ailleurs. Il étend d'ailleurs cette interdiction à ses conférences et reconstitue à partir de notes et à ses cours. Cependant, ses élèves du lycée Henri IV recopiaient ses cours, raconte Édouard Leroy, et les répandaient. Et d'ailleurs, Bergson, dans la mesure où il parlait lentement, encourageait cette forme de piété scolaire. Alors, l'objection qu'il fait est très, très curieuse. Je n'ose la communiquer à un ensemble de professeurs, mais enfin, il faut le dire quand même. Il a donné le conseil suivant à Guiton quand celui-ci était jeune professeur. Il lui a dit « N'essayez pas de transformer vos exposés en leçons d'agrégation. Ne mêlez pas vos recherches et votre enseignement. Ne communiquez à vos élèves de lycée, et cela vaut peut-être pour ses auditeurs au Collège de France, que des idées communes aux divers âges. En un mot, les cours ne doivent pas révéler la pensée originale de leur auteur. Cela veut-il dire qu'on ne doit rien savoir de la vie de Bergson ? Alors, à regarder comment Bergson a lui-même procédé quand il avait à faire l'éloge de quelqu'un, on peut répondre par la négative. En effet, le 20 et 27 février 1904, dans cette salle, Bergson lut la notice sur la vie et les travaux de M. Félix Ravesson-Mollien. Et dans cet éloge qu'il fit de son prédécesseur, il tint compte de sa vie. De la même façon, quand il fut reçu le 24 janvier 1918 sous la coupole, il évoqua la mémoire de son prédécesseur, Émile Ollivier, qui était premier ministre de fait en 1870, même si, ajoute Bergson, il n'en a jamais eu le titre. Alors, dans cet éloge d'Émile Ollivier, Bergson dit ceci, « Approfondir une œuvre n'est déjà pas aisé. Mais quand on songe au peu que l'on sait des personnages qu'on a le plus fréquentés, à l'ignorance où l'on demeure souvent de celui avec lequel on a inséparablement vécu, c'est-à-dire soi-même, on est pris de peur à l'idée d'avoir à poser sur le sable mouvant du témoignage la reconstruction d'un caractère et à faire l'histoire d'un homme. » Alors, de fait, nous savons peu de choses sur la vie de Bergson. Il est né le 15 octobre 1859 à Paris, rue Lamartine. Son père, Michael Bergson, était d'origine polonaise. C'était un pianiste et un compositeur. Et ce caractère de musicien a probablement eu de l'importance pour Bergson, car dans son œuvre, on trouve de nombreuses références à la musique. Alors, c'était un pianiste et un compositeur. Il a enseigné à Paris. L'année de la naissance de Bergson, il a même fait jouer un opéra comique en un acte. Il a été nommé professeur de la classe supérieure de piano au Conservatoire de Genève en 1863. En 1866, la famille revient à Paris et elle quittera définitivement la France pour l'Angleterre, Monsieur Bergson père ayant trouvé un poste à Londres. Alors, Bergson était d'une famille de 7 enfants. Je sais peu de choses sur ses frères et sœurs, à part l'une de ses sœurs, Mina, dont le nom s'est transformé en Moïna, qui avait épousé un homme qui s'appelait Samuel Liddell MacGregor Mathers, qui était, alors c'est très curieux, il était à la fois féru d'occultisme et de stratégie. Ce monsieur Mathers et Mina ont vécu à Paris entre 1894 et 1919. Et on trouve à la bibliothèque Doucet, place du Panthéon, un dessin à la sanguine de madame Bergson, mère, fait justement par Mina. Et Bergson disait de sa mère, « Ma mère fut une femme d'une intelligence supérieure, une âme religieuse au sens le plus élevé du mot, et dont la beauté, le dévouement, la sérénité, je pourrais presque dire la sainteté, firent l'admiration de tous ceux qui la connurent. » Madame Bergson, mère, était anglaise, du nord de l'Angleterre, elle était de Doncaster, et je m'étais demandé si Bergson avait pour langue maternelle l'anglais, mais pas du tout. Sa mère lui parlait français, et il ajoute qu'elle écrivait comme Madame de Sévigné. Alors, les études de Bergson sont très brillantes. Il est mis en pension très jeune, à 9 ans, à Paris, et il restera 10 ans pensionnaire. Dès la classe de 7e, on voit à la bibliothèque Doucet les livres de prix. Il a tous les prix possibles. Alors, c'est très simple. Et au concours général, il obtient en 1875 le premier prix de rhétorique, en 1876 le prix de philosophie. Et comme à l'époque, les philosophes devaient passer le baccalauréat de sciences, il fait une deuxième année donc, de terminale et il obtient le premier prix au concours général de mathématiques. Et alors, c'est assez amusant, son professeur de mathématiques à Condorcet, quand il apprit qu'il voulait faire de la philosophie, lui dit « C'est un acte de folie. Vous pourriez être un mathématicien, vous ne serez qu'un philosophe. » Bon. En 1878, il est reçu à l'École normale supérieure. Dans sa promotion se trouvent Jaurès, le futur cardinal Baudrillard, Durkheim, Desjardins. En 1881, il est reçu à l'agrégation de philosophie. Il enseigne pendant 2 ans au lycée d'Angers. Et alors, il agaçait beaucoup son proviseur parce qu'il faisait cours avec son chapeau sur la tête, parce qu'il craignait beaucoup les courants d'air. En 1883, il enseigne au lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Et c'est l'époque décisive du passage, on peut dire, du talent au génie, laissé sur les données immédiates de la conscience. Sa thèse principale paraîtra en 1889. Alors, c'est une période où il fait des discours, notamment un discours célèbre sur la politesse, dont Guiton dira que c'est un des seuls témoignages d'indiscrétion de Bergson à son propre égard. Il se livre aussi à d'autres expériences. Il hypnotise 2 jeunes gens et son premier article qui paraît dans la revue philosophique en 1886 traite de la simulation inconsciente dans l'état hypnotique. Alors, le 27 novembre 1889, il soutient ses thèses, essai sur les données immédiates de la conscience et sa thèse latine, comme c'était l'usage à l'époque, Quid Aristoteles de loco sincerit. À son jury siègent Paul Janet, Charles Waddington et Émile Boutroux. Il se marie le 7 janvier 1892 à Louise Neuberger, qui est une parente de Jeanne Veil, la mère de Marcel Proust, et Marcel Proust sera témoin au mariage de Bergson. Ils ont une fille, Jeanne, qui naît en mars 1893 et qui était sourde-muette. Alors, dans la bibliothèque Doucet, il y a une photographie de Jeanne Bergson qui était d'une beauté tout à fait... Elle était très belle, très imposante. Et elle a fait des études de sculpture et de peinture. Elle a été l'élève de Bourdel et elle a exposé. Elle a été en même temps pour son père une collaboratrice fidèle et sur l'exemplaire que Bergson a donné à sa fille de la pensée et le mouvant, il écrit « À ma chère petite Jeanne, artiste et philosophe ». Et effectivement, l'exposition du centenaire qui eut lieu en mai 1959 a été organisée par Julien Quin, mais avec l'aide de Jeanne Bergson. Alors, je dis quand même un mot, on m'avait fixé de faire le portrait de Bergson en 1907, mais je dis quelques petits éléments qui suivent. Il a, en 1898 à 1900, il a été maître de conférence à l'École normale supérieure. Il a eu pour élève Peggy, dont il dira, je le cite, « grande et admirable figure ». Elle avait été taillée dans l'étoffe dont Dieu se sert pour faire les héros et les saints. Il est élu au Collège de France le 17 mai 1900 et il y enseignera jusqu'en 1914, en se faisant de temps en temps remplacer d'ailleurs. Alors, le succès de ses cours était si considérable qu'en 1914, donc 14 ans après le début de ses cours, on a une lettre à l'administrateur du Collège de France, d'auditeurs qui se plaignent en disant « Il y a 700 auditeurs chaque semaine au cours de M. Bergson. La salle la plus grande du Collège de France ne peut en contenir que 375 assises. Il faudrait qu'il puisse enseigner au grand amphithéâtre de la Sorbonne. » Donc, vous voyez, il y a un succès extraordinaire de Bergson. Alors, il existe quelques photographies de Bergson en 1905 et 1907. Une photo de 1905 dont Guiton dit « Je note un Bergson ignoré, tenace, le teint et ce teint frais, lisse, ce regard incisif, la bouche un peu serrée, c'est le Bergson des jours de riposte, celui qui lance des flèches à ses contradicteurs. » On a un autre portrait, une autre photographie de 1909 qui donne plutôt alors l'impression d'un analyste et d'un voyant. Alors, nous avons des portraits littéraires de Bergson. On a un portrait de son camarade de lycée d'école normale et de son confrère à l'Académie française, René Doumic. On a dans le journal de Charles Dubos un Bergson, qui est au fond un peu, plus lointain, plus inaccessible. On a un portrait très long de Guiton. On a aussi un Bergson d'Édouard Leroy qui souligne l'extraordinaire rayonnement du professeur. Alors, qu'est-ce qui a frappé particulièrement son auditoire? D'abord, ses élèves de lycée et ses auditeurs au Collège de France. Alors, il le compare, c'est une comparaison qui revient à plusieurs reprises, à un nageur qui pique vers la haute mer. Autrement dit, ils avaient l'impression de voir sous leurs yeux une pensée qui s'inventait en se plongeant dans l'univers. Il ne s'agissait pas, précise les témoignages, d'un art oratoire particulièrement brillant de Bergson. Il donnait le sentiment que la durée de son cours restituait la durée des choses. C'était un exercice et c'était en même temps l'expérience du devenir révélé. La parole et les processus naturels opéraient leur jonction et c'est, je crois, cette concordance miraculeuse qui fascina le public de Bergson. Cette opération, qui était à la fois rationnelle et alchimique, suppose la conjonction réussie dans la pensée philosophique de l'approche scientifique et de l'approche poétique du monde, au sens où Platon, à la fin des lois, dit que la connaissance parfaite, et je le cite, consiste dans le mélange de l'intellect et des plus belles perceptions au point qu'elles ne fassent plus qu'un. Est-ce que c'était un événement unique à l'époque? Ou bien y a-t-il eu des professeurs envoûtants et comme miraculeux? Alors, je crois que les élèves d'Alain, dont d'ailleurs il faut dire que Bergson détestait le style, et ceux de Michel Alexandre, dont au moins quelques-uns d'entre nous ont été les élèves, donnaient ce même sentiment. Je m'excuse une seconde mon cas personnel, Michel Alexandre me laisse à plus de 50 ans de distance la certitude d'avoir été témoin de moments de création. Création qui n'était pas l'œuvre subjective d'un penseur, Michel Alexandre, mais l'observation dans une salle de classe d'Hippocagne du lycée Louis-le-Grand, devenue une sorte de laboratoire, d'une action qui avait lieu dans l'univers. Alors, je crois que Bergson a possédé le génie de jouer, quand il était sur scène, au lycée ou au Collège de France, des moments de la création. D'où le témoignage que lui en rend Claudel dans une lettre de Tientsin, après avoir lu l'évolution créatrice. Le 7 juillet 1907, il écrit à Gabriel Friso, à qui il a demandé qu'on lui envoie l'évolution créatrice, « Il y a des théories de Bergson, entre les théories de Bergson et les miennes, des ressemblances frappantes qui m'avaient déjà été signalées. Par exemple, la réalité objective fondamentale de la durée, l'élan vital que j'appelle la poussée, l'identité des procédés de la vie et de la connaissance. En un mot, l'essentiel est dit. » Enfin, l'essentiel, peut-être pas du point de vue scientifique. Bon.
Cet après-midi, nous aurons le bonheur d'écouter le recteur Gérald Antoine nous parler justement de la lecture que Claudel fit de Bergson. Pourtant, il me semble que pour servir cette entreprise de philosophie cosmogonique, de philosophie de la nature, où la durée est à la fois le tissu de l'univers et celui des esprits qui le pensent, Bergson ne s'est peut-être pas placé dans des conditions optimales. Ses dons mathématiques étaient aussi grands que ses dons philosophiques, et comme je le disais en commençant, son professeur de mathématiques, M. Desboves, avait trouvé que c'était une folie d'abandonner trop tôt les mathématiques. Je rappelle que quand l'agrégation de philosophie a été créée en 1748 après l'éviction des jésuites, les coefficients de science et de métaphysique étaient les mêmes au concours. Alors, un parallèle entre Bergson et un de ses contemporains permet peut-être d'éclairer ce problème. Je voudrais faire un bref parallèle entre Bergson, donc 1859-1941, et son contemporain Whitehead, 1861-1947. Tous deux avaient reçu en naissant le don des mathématiques et celui de la philosophie. Le premier, Bergson, est entré à l'École normale supérieure en lettres. Le second, Whitehead, à l'Université de Cambridge en mathématiques à Trinity College. Le premier, en 1889, publie « L'essai sur les données immédiates » et en 1896 « Matière et mémoire ». Le second, en 1898, publie « Treatise on Universal Algebra ». L'un, en 1907, achève l'évolution créatrice. L'autre, à la même époque, travaille avec Russell à la rédaction des Principia Mathematica, le grand traité de logique mathématique du début du XXe siècle, qui paraît entre 1910 et 1913. En 1900, Bergson est élu au Collège de France, en 1901 à l'Académie des sciences morales et politiques. Whitehead, de son côté, est élu en 1903 à la Royal Society, qui est l'équivalent donc de notre Académie des sciences. Alors, je passe sur l'avenue d'Einstein en 1922 à la Société française de philosophie, mais cette année-là, Whitehead écrira « Principle of Relativity » où à la fois il montrera un certain désaccord philosophique avec Einstein, mais en même temps une compréhension absolument parfaite de la théorie de la relativité restreinte et de la théorie de la relativité générale. Alors, tous les deux, Bergson et Whitehead, ont eu la conviction que le monde est en devenir. Mais le premier s'attache principalement à l'évolution des espèces sur notre planète, tout en disant d'ailleurs que le phénomène de la vie est un phénomène universel et qu'il se peut très bien que sur d'autres planètes, et sans que la chimie du carbone ne soit impliquée, d'autres êtres vivants d'une structure physiologique différente peuvent très bien exister. Le second, Whitehead, est plutôt sensible à la découverte d'autres galaxies et au fait que l'univers dans son ensemble paraît en devenir. Alors, Bergson n'a jamais pratiqué la philosophie comme une discipline générale. Dans chacune de ses œuvres, il s'attaque à un problème précis en s'efforçant de lui faire livrer toute sa substance implicite. Comme le dit Édouard Leroy, un souci de précision le hantait. Et vous savez qu'il a eu une sorte d'extraordinaire maîtrise, au fond, de ses publications. Ses quatre livres principaux, « Essai sur les données immédiates de la conscience » 1889, « Matière et mémoire » 1896, « L'évolution créatrice » 1907, et il attend 25 ans, 1932,
pour publier les deux sources de la morale et de la religion. On a une étude intéressante du père de Tonquédec, qui a paru dans les études en février 1912, sous le titre « Monsieur Bergson est-il moniste ?» Et Bergson a répondu au père de Tonquédec en lui rappelant que sa méthode en philosophie est rigoureusement calquée sur l'expérience intérieure et extérieure et qu'elle ne permet pas d'énoncer une conclusion qui dépasse de quoi que ce soit les considérations empiriques sur lesquelles elles se fondent. Et alors, il passe en revue ses œuvres et il dit à propos des essais sur les données immédiates qu'elles aboutissent à mettre en lumière le fait de la liberté, que matière et mémoire permet de toucher de doigt, je l'espère, dit-il, la réalité de l'esprit, et que l'évolution créatrice présente la création comme un fait. Et Bergson ajoute « De tout cela se dégage nettement l'idée d'un Dieu créateur et libre, générateur à la fois de la matière et de la vie, et dont l'effort de création se continue du côté de la vie par l'évolution des espèces et par la constitution des personnalités humaines. » Alors, vous permettrez une brève parenthèse de la part d'un ariégeois ou d'un demi-ariégeois. En 1879, et c'est Anne Fagot-Largeau qui m'a signalé l'existence de ce livre, a paru « La création évolutive » par le comte Bégoin. Alors, il s'agit de Maximilien Bégoin, qui est un géologue de formation et dont le fils Henri a été un naturaliste distingué. Et ils ont joué un rôle très important, et c'est intéressant à l'époque où on parle encore de créationnisme, pour montrer qu'il n'y avait pas du tout d'incompatibilité entre la théorie darwinienne de l'évolution et le catholicisme. Et il semble que Henri Bégoin, donc le fils de Maximilien, de l'auteur de « La création évolutive », a joué un certain rôle pour dissuader le Vatican de dénoncer un jugement défavorable aux théories de l'évolution. Alors, je dois respecter mon horaire. Je voudrais dire, mes éminents collègues vont dans un instant vous parler à la fois de l'état de la biologie au moment où paraît l'évolution créatrice, et le professeur Duboul nous parlera de l'état justement des théories ou du savoir sur l'évolution 100 ans après l'évolution créatrice. Je crois que Bergson a eu à la fois un double souci qui était le suivant. C'est que les seuls êtres capables de reconstituer cette histoire de l'univers et de la raconter, ce sont les hommes. Malheureusement, comme leur intelligence est faite pour l'action et que l'action, pour l'essentiel, est une fabrication d'instruments ou un maniement de la matière inerte, il est très difficile aux hommes de se faire une idée exacte de l'évolution dans laquelle ils sont embarqués. Leur intelligence est impropre à cette tâche, car spontanément, elle répugne à se couler dans la durée mouvante, car improductive à leurs yeux et peut-être dangereuse. Il faudrait, pour réussir un tel exploit, transmuter l'intelligence en quelque chose d'autre qui serait l'instinct devenu conscient de lui-même, plongeant au cœur de l'élan vital, mais les yeux ouverts, devenant capable de réfléchir l'histoire, ou plutôt l'action entière de la vie. Cet exploit intellectuel et psychologique n'est pas à notre portée et nous pouvons essayer simplement d'en saisir quelques bribes, et c'est pour Bergson justement la mission philosophique. Et Bergson avait un sens très aigu de l'inachèvement inéluctable d'un travail philosophique. Dès 1882, il avait écrit
On n'a pas tardé à faire cette découverte désespérante. L'univers est plus vaste que notre esprit. La vie est courte, l'éducation longue, la vérité infinie. Il faut se consumer en efforts pénibles, tâtonner longtemps pour mettre la main sur une bien petite parcelle de la vérité. Alors, je crois qu'il a donné à ses auditeurs et à ses lecteurs le sentiment que sa recherche de la vérité était intrépide, naturelle, risquée, mais aussi fructueuse. Elle s'est poursuivie jusqu'à sa mort. Et je voudrais terminer en rapportant le témoignage que Brunswick nous donne des dernières heures de Bergson. La dernière nuit, il se croyait au Collège de France. Il faisait son cours. Il dit « Il est 5 heures, il faut que je m'arrête » et il mourut.
Vous venez d'entendre Bertrand Saint-Cernin, membre de l'Institut, dans le cadre du colloque de l'Académie des sciences morales et politiques, consacré en septembre 2007 au centenaire de la parution de « L'évolution créatrice » de Henri Bergson.